RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est le visage de la science à la télé. Il s'appelle Mac Lesguy. Vous vous souvenez de Égal M6 sur M6. Le livre est aux éditions du Rocher. Vérité, toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Il y a deux émissions scientifiques cultes en France. Les Grandes Gueules et Égal M6. Non,
c'est exact.
Ah, bien sûr, Charles. Ah ouais. Docteur Consigny.
Si vous le dites.
Justement, dans les GG, il y a un instant, on parlait de cette peur vis-à-vis de ce nouveau virus, le hantavirus, qui a malheureusement touché des croisiéristes. Doit-on craindre ce virus? On a bien sûr tous en mémoire le Covid. Est-on parti vers une nouvelle pandémie mondiale, selon vous?
Alors, je ne suis pas virologue, et je ne fais pas jouer les virologues d'un jour. Voilà, faut pas péter, comme on dit. Moi, il y a une chose qui me rassure, c'est que on a quand même beaucoup appris avec l'épidémie du Covid. Confinement, vaccin qu'on arrive à mettre au point de plus en plus rapidement. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiet par cet hantavirus, qui est un virus, bon, ben, on le voit, qui est mortel.
On va tordre avec vous les idées reçues, puisque c'est l'objet de votre livre.
Oui.
Par exemple, on dit « le bio, c'est meilleur pour la santé ».
Non, le bio n'est pas meilleur pour la santé. Toutes les études et les méta-analyses, c'est-à-dire les études d'études faites sur des populations ayant mangé du bio versus des populations mangeant des aliments classiques, montrent qu'il n'y a aucun bénéfice pour la santé à consommer des aliments bio.
Mais c'est meilleur pour la planète.
Il y a quand même moins de pesticides.
Alors, il y a moins de résidus de pesticides dans les aliments bio, mais vous êtes entre 98 et 96% donc d'absence de pesticides en dessous des seuils à partir du moment où ça pourrait commencer à être toxique. Donc ça n'a aucune conséquence pour la santé. C'est-à-dire que les résidus de pesticides en moindre nombre dans le bio n'ont pas plus d'incidence que les résidus de pesticides en très faible nombre dans les aliments conventionnels.
Et d'ailleurs, dans votre livre, vous dites que c'est pas ça qui fait la différence, c'est le mode de vie. En fait, des personnes qui consomment du bio, à côté de ça, ils ont un mode de vie peut-être beaucoup plus sain.
Alors, c'est effectivement ce qui est ressorti d'une étude française. Pas d'une étude anglaise, mais il y a une étude française qui a dit, tiens, on voit que les personnes dans notre étude que l'on suit qui consomment du bio sont en meilleure santé que celles qui n'en consomment pas. Mais ce sont aussi des personnes plus riches, qui ont moins de surpoids, qui fument moins, qui boivent moins, qui font plus de sport, en un mot, qui font plus attention à leur santé, à leur corps. Et c'est ça qui explique la différence, en l'occurrence, c'est sur la fréquence des cancers, c'est ça qui explique la différence de fréquence entre les cancers de cette population versus le reste de la population. Mais quand on fait la somme de toutes les études, parce qu'il y en a eu beaucoup, faites à l'échelle mondiale, une grande méta-analyse est parue l'an dernier, il n'y a, encore une fois, je le dis, aucune différence pour la santé entre une alimentation bio régulière et une alimentation non bio. Et pour répondre à votre question, sur la planète, alors, il faut distinguer le niveau local et le niveau global. Au niveau local, il est clair que dans un champ cultivé en bio, vous avez plus de biodiversité, et ça, toutes les études scientifiques le montrent. Donc, au niveau local, un champ en bio, c'est mieux qu'un champ pas bio. Par contre, si maintenant on élargit le scope, parce que le bio, c'est bon ou mal an, à peu près 5% de la production agricole. Si on dit, par exemple, si on passait tout le monde, toute la planète en bio, alors là, ça changerait, parce que le bio, vous le savez, c'est beaucoup moins de rendement à l'hectare. Autrement dit, si on passe tout en bio, il faudra démultiplier les surfaces agricoles. Ça veut dire rogner sur les espaces naturels, sur les forêts, sur les prairies naturelles. Et là, on peut penser que le remède serait... le résultat serait pire que cette solution. Donc, l'impact sur la biodiversité à l'échelle mondiale du bio, ça se discute.
C'est pour ça que j'ai pris cet exemple du bio, parce que votre démarche, elle est intéressante. On entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opinions. Et vous dites, il faut partir des faits scientifiques, en fait, avant
exactement.
De commencer à débattre et à faire part de ces opinions. Il y a une vérité scientifique. Et on n'oublie pas, il n'y a pas plusieurs vérités scientifiques. Il y a une vérité scientifique, elle peut évoluer. Elle peut évoluer, parfois
elle peut
se tromper, etc.
Elle peut évoluer, on peut l'affiner, exactement. Chacun a des opinions, chacun a des croyances. À un moment donné, sur un problème donné, alors la science n'a pas réponse à tout, mais lorsque la science apporte une réponse, qu'elle est validée par plusieurs équipes au niveau national et international, c'est sans doute la meilleure réponse qu'on puisse apporter à tel ou tel problème. Voilà. Autrement dit, pour avoir une opinion, je dis, il faudrait commencer toujours par regarder ce que dit la science sur un point donné, plutôt que de dire, moi j'ai telle opinion. Encore une fois, la science n'a pas réponse à tout, mais pour apporter une bonne réponse, je pense que la démarche scientifique est la meilleure qui existe aujourd'hui.
même si parfois ça va tordre le cou à des idées répandues,
c'est un peu le but.
Notamment sur les réseaux sociaux où chacun fait part de ce qu'il pense de tel ou tel fait.
Bien sûr. Et puis vous avez en France un courant très répandu qu'on appelle le relativisme. La suite à un fameux chercheur en histoire des sciences s'appelait Karl Popper qui disait finalement la science c'est politique, les résultats sont très influencés, etc. Non, faut avoir un moment le courage de dire qu'une opinion qui apparaît sur TikTok ou sur X, voilà, n'a pas le même poids que le résultat de 30 ans de recherche fait par plusieurs équipes internationales sur tel ou tel sujet. Bah, c'est le cas du bio, par exemple, c'est le cas des OGM, c'est le cas de beaucoup de problématiques liées à l'énergie.
Sur le réchauffement climatique, les OGM sont pas dangereux, par exemple.
Alors, il faut pas dire les OGM sont pas dangereux, il faut dire que les OGM qu'on a mis à présent sur le marché depuis à peu près une quarantaine d'années et qu'on cultive dans le monde entier, voilà, ne pose
pas
de conséquences néfastes, ni pour la santé, ni pour l'environnement. Et c'est toujours interdit. Et c'est toujours interdit chez nous.
Pourquoi on ne revient pas là-dessus, puisque désormais on a le recul et on se dit, on pourrait le faire.
Parce que je pense que cette peur des OGM qui a été instillée il y a 30 ou 40 ans a fini par contaminer toute la classe politique, tout le monde des décideurs, et qu'on mettra sans doute des années. Peut-être qu'on sera le dernier pays. Il faut quand même bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les surfaces mondiales cultivées avec des OGM représentent 10 fois la surface agricole française. C'est-à-dire que vous avez des millions d'hectares des USA à la Chine, en passant par l'Inde, l'Argentine et j'en passe, qui sont cultivés avec des OGM. Tout le coton, vous avez des chemises, vous avez des t-shirts, tout le coton que vous portez aujourd'hui, c'est pas du coton bio, c'est du coton qui est OGM. Pour le plus grand bénéfice des insectes qui aujourd'hui reviennent dans les champs de coton, notamment en Chine, parce que chaque fois que vous mettez des OGM, vous diminuez les pesticides. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez, soit on continue à mettre des pesticides, soit on remplace ça par les OGM. C'est ce que le Nouveau Monde ou l'Asie ont fait depuis très longtemps.
Vous êtes écolo ou pas?
Alors, bien sûr, je suis écolo.
En plus de vos activités pour Monsanto.
Non, alors.
À côté.
Vous êtes quel type d'écologiste alors?
Moi, je suis pour une écologie qui préserve notre planète, notre biodiversité, et voilà, et qui lutte contre le réchauffement climatique. Je donne quelques clés pour bien comprendre déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup de climato-scepticisme. Hein, on a deux ennemis, si vous voulez. On a le changement climatique, puis aussi on a les climato-sceptiques qui disent il n'y a pas de changement climatique. Voilà. Donc j'essaie de donner quelques arguments pour permettre de les convaincre. Moi, je suis effectivement pour une écologie basée sur la science. Il faut savoir que l'écologie, avant d'être un courant politique, c'est avant tout une science. C'est la science qui étudie les êtres vivants et les relations dans un milieu donné entre les êtres vivants. Moi, dans mes études d'agronomie, parce que je suis ingénieur agronome, j'ai fait beaucoup d'écologie. L'écologie bien comprise, vous voyez, sur cette question des OGM, c'est de se dire effectivement, soit je prends une culture classique, je la protège des ravageurs, donc des insectes, des moisissures, avec des pesticides, des produits phytosanitaires, soit je passe aux OGM, ça veut dire que je vais diminuer les pesticides, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, mais justement, voilà. Pour vous, quand je dis que vous êtes écolo, est-ce que les Verts, le parti Les Verts, sont des écologistes comme vous ou pas?
Alors, je ne sais pas si ce sont des écologistes comme moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de la politique, de donner des bons points.
Est-ce qu'ils ont les bons arguments
à tel ou tel, pour à tel ou tel parti?
Nous faire passer à l'écologie ou pas?
D'une manière, ça questionne le rapport du monde politique avec la science. Et avec ce que disent
Beaucoup de scientifiques dans le monde politique.
Alors, il y a
pas beaucoup d'ingénieurs.
Il y en a quelques-uns, il y a pas beaucoup d'ingénieurs, malheureusement. Et d'une manière globale, je pense que aucun parti en France ne se dit on va commencer par voir ce que dit la science sur telle ou telle question avant de définir une politique. Voilà. Ni à gauche, ni à droite, ni au centre, ni aux extrêmes, ni chez les écologistes, ni ailleurs. C'est un peu la science quand ça nous arrange. Pourquoi? Parce que le poids des croyances, des idéologies est bien souvent plus fort que ce que disent les faits scientifiques.
Mais prenons un exemple, puisqu'on parlait du réchauffement climatique, la climatisation.
Oui.
C'est un vrai débat, la climatisation, puisqu'on va vers parfois des étés de plus en plus chauds. Donc le réflexe, c'est bien sûr de s'équiper, parce que ça permet... Et d'ailleurs, pendant le Covid ou pendant les canicules, on dit la clim, c'est bien. Mais est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que quand on s'équipe en climatisation, on doit culpabiliser?
Alors non, on ne doit pas du tout culpabiliser. Nous allons, je ne suis encore une fois pas climato-sceptique, nous allons vers des étés de plus en plus chauds, vers des épisodes de canicule. L'INSERM fait les comptes chaque année sur la surmortalité liée aux canicules. Et quand vous discutez avec les chercheurs, en disant, mais ça va s'amplifier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils disent, la seule chose à faire, c'est climatiser, à commencer par climatiser les personnes les plus fragiles. Mmh. Climatiser les hôpitaux, climatiser les maisons de retraite, climatiser les EHPAD, et puis climatiser les personnes âgées qui ont envie d'avoir frais et qui pourraient souffrir de la chaleur. Personne ne se pose la question dans ce pays, parce qu'on pourrait très bien dire aussi, mais attendez, il faut vivre avec le froid en hiver, on va arrêter de se chauffer. Personne ne criminalise les gens qui achètent un chauffage pour se chauffer l'hiver. Pourquoi est-ce qu'on va dire donner des leçons en disant se chauffer l'hiver c'est bien, mais se refroidir l'été c'est pas bien. Dans les grands pays développés du monde, le Japon, les États-Unis et d'autres, ce sont des pays qui sont climatisés à plus de 90%. Je ne comprends absolument pas pourquoi il y a ce tabou.
Oui, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie
aussi beaucoup d'énergie pour se chauffer. Oui. On a la chance en France, vous le savez, on le sait tous, d'avoir une électricité qui est très peu carbonée. Mmh. Nous avons l'électricité, et ça, pardonnez-moi de le dire, mais c'est écolo, parce que ça participe peu au réchauffement climatique. Donc, autrement dit, on a la chance de disposer de cette électricité peu carbonée. Évidemment, utilisons-la pour climatiser et pour protéger les personnes les plus fragiles en été.
Donc, il faudrait même un plan clim, plus général.
Un plan clim,
climatisation, c'est un certain coût.
Si on prenait
aider ceux qui peuvent pas se climatiser à le faire, notamment des personnes fragiles,
bien
âgées.
Bien sûr. Je vois encore des projets d'hôpitaux, d'écoles. Il faut savoir aussi que quand la température commence à monter, la productivité baisse. La productivité dans les usines des ouvriers, dans les bureaux des travailleurs, dans les facs, dans les écoles des écoliers, des étudiants, la productivité
bien
baisse.
Trop chaud, oui.
Si on voulait adresser tous ces problèmes, on ferait un grand plan clim, effectivement.
Alors, Joël Bruno.
Moi, j'ai vu dans votre livre un chapitre, vous savez, sur les médias et l'absence des fois d'experts. Le problème, c'est qu'on peut avoir une certaine défiance vers la science, parce que tout à l'heure, vous expliquez qu'un scientifique qui a fait 30 ans d'études sera toujours plus écoutable et on doit tenir compte de son avis que quelqu'un qui arrive là et qui veut dire qu'il va donner son avis sur tout. Et moi, j'ai un contre-exemple, malheureusement. Moi, je vois le professeur Raoult.
Oui.
Quand il est arrivé pour nous parler du Covid, c'est comme son métier, c'était quand même ça. C'était la recherche sur les virus. Il avait 30 ans d'expérience, et moi je l'ai cru au début. Je me dis, s'il nous dit un truc quand même, lui il est quand même mieux placé de me parler que lui que Édouard Philippe ou un autre qui est pas médecin. Sauf que, et maintenant avec un peu de recul, on se dit, mais il a pas, enfin ce qu'il nous a raconté c'est un peu des cracks. Alors moi je trouve que le problème de la défense vers la science, c'est que ceux qu'on a emmenés à la télé des fois, c'était du spectacle, c'était pas des vrais scientifiques. Parce que les scientifiques, je pense qu'ils ont autre chose à faire que d'aller à la télé aussi.
C'est tout à fait vrai, et c'est pour ça qu'il faut plutôt que les écouter ou voir ce qui passe à la télé, et ensuite il faut les confronter à leur publication. Mais oui. Si vous voulez, au niveau, le professeur Raoult défendait, vous le savez, un médicament qui s'appelle l'hydroxychloroquine en disant que c'était un remède miracle contre le Covid. Il faut replacer ça dans son contexte. Le Covid a été une pandémie mondiale, le professeur Raoult et les quelques-uns qui l'ont suivi étaient tout seuls au milieu de milliers de médecins, qui tous ont fait des études dans tous les sens, des États-Unis à la Chine, etc. Personne n'a jamais repris. Vous avez toujours quelqu'un qui va parler à contre-courant. Vous avez même.
Et on aime bien finalement.
On aime bien ça. Peut-être qu'en France, tout d'un coup, on se dit tiens, lui, il parle pas comme les autres. C'est sûrement plus intéressant. Vous savez le syndrome du petit David contre le grand Goliath de la science. La science peut se tromper individuellement. Les chercheurs passent leur temps à se tromper en science. Ce qui est bien, c'est que c'est un processus qui est en quelque sorte auto-réparateur. Si vous voulez, ils disent j'ai fait une découverte, les autres disent ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? On va les vérifier, on fait une deuxième étude, une troisième étude, on va l'affirmer. Parfois ça va prendre 6 mois, parfois ça va prendre 1 an, 8 ans, j'ai un exemple très précis. La science française a mis 8 ans à corriger une grave erreur scientifique qui s'était produite 8 ans auparavant. Le temps de la science...
Et laquelle?
C'est la fameuse étude de Monsieur Serralini sur le danger des OGM. Une étude de 2012 qui a été aussitôt rétractée, qui était sur le plan scientifique, qui était vraiment une étude qu'on peut considérer comme frauduleuse. Le gouvernement a commandé 2 études pour cette fois-ci refaire cette étude, mais cette fois-ci avec des bases scientifiques. Elles ont été publiées, si ma mémoire est bonne, en 2017 et en 2018. Voilà. On n'a rien trouvé, évidemment, ça a été définitivement affirmé. Ça a pris 6 ans pour
les OGM.
Éteindre définitivement cette...
Alors, autre question.
J'aime bien sûr beaucoup les OGM. Si la France adoptait les OGM, ça ferait certainement du bien à notre agriculture.
Charles.
Non, moi j'ai pas de questions, je trouve ça très intéressant. Effectivement, ça tord le cou à un certain nombre de lieux communs
qu'on a tendance à répandre et que les gens tiennent pour acquis, cette histoire d'attraper froid, vous expliquez que ça n'existe pas.
Attends, pourquoi ça n'existe pas, attraper froid, puisqu'on utilise tous cette expression. J'ai attrapé froid.
Non,
le
froid ne rend pas malade. Ce qui rend malade, ce sont les virus. Ce qui se passe, c'est que quand on fait froid, on a tendance à se confiner dans des milieux où on va tous se serrer les uns contre les autres. Hein. Une école, un hôtel, la ligne 13. Je vois que nous parlons entre connaisseurs. Et c'est là que les virus circulent. Et c'est pour ça que on tombe plus souvent malade l'hiver que l'été.
Vous restez avec nous, Mac Lesguy. Le livre s'appelle Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. Il est aux éditions du Rocher. Et je donne la parole à Joël Dagosséry dans 10 secondes. Mais sur le ton de la boutade, j'ai dit, on vous répondra à la question. Est-ce que la Terre est plate? Mais est-ce que ça vaut le coup de répondre aux complotistes qui fleurissent sur les réseaux sociaux, aux théories les plus farfelues, qui font floresse, hein, donc
Qui font floresse. Alors, je ne suis pas expert. Je sais sur les réseaux sociaux qu'il est toujours difficile de convaincre un complotiste qu'il a tort sur tel ou tel point. Il faut peut-être essayer de rentrer dans son jeu en disant, bon, les conséquences, vous voyez, on parlait des victimes du Covid tout à l'heure ou des victimes du vaccin. Il y a bon, mais donc le vaccin a des effets secondaires terribles. Oui, il y a des morts. Combien? Est-ce qu'il y a une étude? Est-ce que ce qu'on appelle les antivax ont été capables de chiffrer le nombre de morts? Et non, en général, la conversation s'arrête très très vite. Oui.
Néanmoins, les antivax sont plus nombreux aujourd'hui qu'avant la période du Covid, ce qui paraît complètement paradoxal puisque c'est quand même le vaccin qui, grâce au vaccin, s'il y en a eu plusieurs, ça nous a permis de revivre. Comment vous l'expliquez ça? Et qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants alors que les vaccins sont obligatoires.
Mais regardez, notamment aux États-Unis, la rougeole était une maladie qui était quasi éradiquée dans les années 2000. Aujourd'hui, on revient à 400, à des plusieurs milliers de cas de rougeole. Il y a déjà quelques victimes. Alors, Dieu merci, la létalité de la rougeole est très faible, mais vous avez déjà 3, 4, 5, 6 morts de rougeole. Ce qui paraît une aberration, alors que c'est une maladie que vous connaissez tous le vaccin ROR qu'on donne à nos enfants, qui était autrefois, il y a 20 ans, considéré comme éradiqué. Mais le pire de ça, c'est que je lisais un article dans la presse américaine, c'est que quand vous interrogez les parents qui ont perdu cet enfant non vacciné, mort de la rougeole, ils vous expliquent que c'est pas du tout parce qu'ils l'ont pas vacciné. Voilà, c'est-à-dire qu'ils restent persuadés que cette mort est due à d'autres causes. Ce qui montre bien que quand le complotisme est enraciné, il est très enraciné.
Parce que le vaccin, c'est Big Pharma, et Big Pharma veut nous tuer, entre guillemets,
pognon avec les morts.
En nous injectant des produits qui sont mauvais pour notre santé. Alors, c'est un peu paradoxal, puisque
c'est un peu paradoxal, voilà, parce qu'une
entreprise
qui cherche à tuer ses clients, a priori, c'est pas très viable longtemps.
Joël Dagosséry.
Alors moi, j'ai adoré votre livre, parce que j'aime bien les petits livres croquignolesques comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs à grignoter, il y a toujours un conseil, des choses qui sont de vue quotidien ou des choses plus scientifiques sur le bio, les OGM, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment adoré pour les gens qui ont besoin de conseils, enfin qui y courent, parce que c'est super. Notamment sur le sommeil, parce que vous savez, moi, je cherche depuis, on va dire, 2-3 ans à optimiser mon corps. Donc, j'essaye d'apprendre des choses sur... je cherche à apprendre comment on fonctionne, voilà. Et le sommeil, par exemple, moi qui suis un peu comme beaucoup de femmes, hein, sur le poids, etc. Donc, il y a 2 ans, j'ai compris que le sommeil favorisait la perte de poids. Oui. Et donc, voilà, on retrouve ce type de conseils dans votre livre. Mais ma question, elle est un peu plus globale. Alors, comment vous jugez la place du scientifique dans la société française? Notamment à la télé, je vous dis ça parce que moi j'ai grandi avec E=M6, bien sûr, mais aussi C'est pas sorcier, mais aussi La vie, vous voyez, il y avait un dessin animé qui s'appelait La vie, où on pouvait rentrer à l'intérieur du corps, oui. Exactement.
Et le jour du Seigneur aussi, tu me disais.
Aussi, effectivement.
Ça, c'est pour soigner ton âme.
Et j'observe quand même qu'il y a une disparition de ce type de programme à la télé. On a en même temps un affaiblissement du niveau en mathématiques, en sciences à l'école. Et donc je me dis que les enfants actuellement n'ont même pas quelque chose sur leurs écrans auquel se raccrocher, qui pourrait même leur donner envie, par exemple, d'augmenter leur recherche en mathématiques, enfin, leur travail, etc. Nous, on avait tout ça, on se disait, tiens, ah, c'est génial ce qu'il a dit là, Mac Lesguy, ou c'est génial ce
que
j'ai vu.
Ça peut faire naître des vocations.
Exactement. Donc comment vous observez ça, enfin comment vous jugez ça, et à quoi c'est dû selon vous?
Alors, à quoi c'est dû? Bah, c'est un phénomène qui est multifactoriel. Merci d'abord de noter qu'effectivement, bah, M6 tient le cap avec toujours une émission à une heure de grande écoute. Et mon credo depuis 35 ans, c'est de plaire au grand public sans déplaire aux scientifiques. C'est-à-dire que sur des thèmes très quotidiens, on essaie d'apporter les meilleures réponses scientifiques possibles avec le concours de tous les physiciens, chimistes, biologistes qui interviennent chaque dimanche soir dans l'émission. Donc ça, c'est un point important. Et c'est vrai qu'à une époque où il y avait plus d'émissions scientifiques à la télévision qu'aujourd'hui, ben moi j'ai toujours conseillé de manière globale que en dehors d'M6 pour lequel j'ai une grande fidélité et qui a une grande fidélité pour moi et je les en remercie. La science a jamais beaucoup excité les patrons de chaîne.
Bah, ça devrait quand même être une mission du service public de l'audiovisuel, par exemple.
Ça pourrait être une mission du service public de l'audiovisuel. C'est un autre sujet sur lequel je ne m'aventurerai pas. Mais d'une manière globale, on voit aussi que la presse scientifique est en diminution. Vous avez raison. Les études scientifiques également séduisent moins aujourd'hui.
Moi, j'étais abonné à Science et Vie, par exemple.
T'étais pas abonné qu'à ça, nous a dit. Mais bon, je dirais rien pour les autres.
Je ne sais pas. Mais Science et Vie, j'avais le droit.
Science et Vie, qui était un excellent journal. La recherche pour la science. À un moment, j'ai tous sur mon bureau. Vous voyez, j'ai tous dévoré. Ça vient du fait que, oui, en France, de manière assez préoccupante, l'esprit scientifique a moins droit de citer qu'autrefois. Quand j'ai commencé en 1991, Égal M6, il y avait dans tous les journaux de grosses rubriques science qui ont quasiment toutes disparu ou se sont petit à petit effondrées. Et c'est dommage parce que d'autres pays prennent le relais. On parlait du Covid il y a un instant, c'est quand même assez symptomatique de se dire que la France, pays de Pasteur, n'a pas réussi à mettre au point de vaccin contre le Covid. Quand on regarde, c'est né de collaborations germano-anglo-américaines essentiellement, plus quelques autres pays que j'oublie. Et nous, on n'a pas été capable de sortir le vaccin. Ça en dit long, effectivement, mais sur l'état de l'innovation et de la recherche en France.
Il y a eu un appel d'un grand patron, le patron de Thalès, qui regrette qu'on ait plus d'ingénieurs.
On n'a pas assez de scientifiques.
On ne les forme pas assez. On court à la catastrophe. Ça sera une catastrophe pour notre pays. Il a raison.
Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que quand on forme un ingénieur en France, on en forme 100 ou 1000 en Chine. Il faut se dire que la science, quoi qu'il arrive,
elle a raté plein de virages du coup.
Elle avance
ces dernières années.
Et on rate plein de virages. Alors, vous voyez, heureusement, on prend l'IA. On a des bons codeurs avec Mistral. On est en train, semble-t-il, de prendre un petit peu, d'accompagner cette révolution de l'intelligence artificielle. Mais il y a beaucoup de révolutions qu'on rate en médecine. C'est assez drôle. On parle du complotisme. L'autre jour, on a annoncé quand même une équipe américaine. Ils sont en train de mettre au point un vaccin ARN messager. Contre le cancer du pancréas, qui est aujourd'hui le cancer le plus létal qui existe. Et l'idée, quand même, c'est donc d'introduire de l'ARN messager dans notre corps, qui va permettre à nos lymphocytes, nos globules blancs, d'aller tuer les cellules cancéreuses dans le pancréas. Les premiers résultats, sur des échantillons tout petits, sont spectaculaires. Spectaculaires. C'est une promesse formidable pour ce cancer qui, je rappelle, est un des plus mortels au monde. Eh bien, à peine avais-je relayé sur X cette nouvelle que tout le monde m'a dit « Ah, vous croyez qu'on va se mettre un vaccin ARNm dans le corps, etc. Vous qui avez déjà participé à l'assassinat de millions de personnes avec vos vaccins ARNm. » Ça en dit long, tout le monde devrait se réjouir. Mais en tout cas, c'est pas une recherche française, c'est une recherche américaine. Regardez nos derniers prix Nobel français. Ils se sont tous exilés un moment pour poursuivre leur recherche ailleurs. CRISPR-Casper, notre grande généticienne, Emmanuelle Charpentier, elle est à l'Institut Max Planck à Berlin, depuis des années, et elle le dit sans détour, je n'aurais pas pu faire en France la carrière que j'ai faite à l'étranger.
Merci Mac Lesguy d'être passé par les GG. Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. C'est aux éditions du Rocher. On vous conseille ce petit bouquin, c'est un plaisir de le lire. Joël, ça l'a mise en joie de retrouver l'idole. Ah, Mac Lesguy aussi.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules. Three,
commence à 60 ans, quand on la connaît mieux qu'avant, et que l'on a appris par cœur tous les raccourcis du bonheur. La vie commence à 60 ans.
c'est que je me souviens très bien de Tino Rossi qui chantait La vie commence à 60 ans. J'étais mouflé et maintenant j'ai passé ces putains de 60 ans. Mais c'est vrai que t'as une autre partie de ta vie qui commence et qui peut être plutôt sympa quand on a la chance d'être dans un métier qu'on aime et d'être en bonne santé. Voilà, c'était mon petit moment personnel pour évacuer ces 60 ans. Alors là, le problème, c'est que ceux qui ne sortent pas de chez eux, ils n'ont pas 60 ans. Ils sont tout jeunes.
Oui, c'est un article du Parisien aujourd'hui en France qui nous a interpellés ce matin. La génération Z est une génération de papy et mamie. Elle le revendique. Oui, effectivement, le samedi soir, on n'a pas envie d'aller dans un bar, dans une boîte de nuit. On veut rester à la maison, faire des soirées plaies, de Pearls, Rami, comme si ces jeunes de 18 à 25 ans avaient plus de 70 ans. C'est la génération casanière qui le revendique, même sur Instagram. Il y a même des jeunes qui avec des vidéos qui cumulent des milliers de vues pour dire voilà comment on vit une vie cosy, une petite vie cosy. Est-ce que vous le comprenez ça? Ou est-ce que vous dites c'est pas possible? Parce que quand moi je me souviens que j'avais 20 ans, je pensais qu'une chose c'était de sortir, d'être dehors et de faire la fête.
Antoine, est-ce que tu es dans cette génération?
Eh bien, je sors beaucoup. Malgré, voilà, je suis trentenaire, je sors beaucoup et souvent. Et en même temps, je comprends les deux mondes. C'est-à-dire que aujourd'hui, sortir c'est devenu cher. Honnêtement, je pense que à votre génération, vous alliez en boîte, c'était raisonnable de se payer des coûts. C'était
Non. Ah, moi, non, je payais jamais en boîte. C'était hors de prix les consommations.
Non, mais d'accord. Mais même sortir boîte. Au bar ou tu vois.
C'est pour ça qu'on traînait au bar.
Aujourd'hui, avant. les moindres soirées sont vite très chères. Donc les jeunes, ils en ont un peu marre.
C'est ça l'explication.
Alors, je pense que c'est une explication. Ensuite, je pense que c'est aussi devenu normal de pouvoir dire à 20-30 ans, je suis très bien chez moi, Netflix tranquille, alors qu'avant jamais tu l'aurais assumé. Et aujourd'hui, probablement après le Covid, où on a renoué un peu avec son chez-soi, le droit à être au calme, etc.
T'as parlé de Netflix, est-ce que tout ça ne pousse pas à rester chez soi, le numérique, le portable, finalement tu peux avoir des interactions de chez toi, t'as pas besoin de sortir.
C'est vrai que maintenant tu peux voir le monde de chez toi.
Tu peux te faire livrer ton repas, Deliveroo, Uber Eats, voilà.
Avec Amazon Netflix et Uber Eats, t'as plus besoin de sortir.
Voilà. Plus besoin de sortir.
Et télétravail.
Ouais. Et le télétravail voulu par Monsieur Lecornu, on est bien.
Et ton application Tinder où tu t'appelles Antoine Love, vrai, bébé joli aussi. Ah, donc aussi. Voilà, ouais.
Bébé joli. T'as 5 applications aujourd'hui, t'as plus besoin de sortir de chez toi.
Voilà.
Plus du tout. Tinder et ça pour les relations amoureuses. Tinder, Amazon pour faire livrer tout ce que tu veux.
Chez lui, hein. Instagram pour rester en contact avec tes copains, tes copines qui t'envoient des vidéos.
5 applications, t'as plus besoin de sortir de chez toi.
Des messages. Mais ouais, la meilleure application, c'est quand même le bistrot, là. Tu vois, tu rencontres du monde, c'est sympa.
Mais il y a de moins en moins.
Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la côtoies, cette génération, de temps en temps, ou pas?
Non, moi, je côtoie plutôt une génération qui aime traîner dehors, même s'il y en a qui aiment être cosy. Mais je te rejoins sur les effets du Covid que l'on minore, où on a été confiné. Et je pense que ça a aussi un rapport avec la santé mentale.
Certains jeunes sont restés confinés, en fait.
Ouais, il y a la question de la santé mentale. Il y a la question du rapport au travail qui se décline dans les autres domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus travailler pour vivre. Ne veulent plus vivre pour travailler, mais travailler pour vivre plutôt, excusez-moi. Je pense que ça aussi, ça joue. Et le numérique qui est en train de nous isoler, en réalité. On peut le voir comme un progrès. Moi, personnellement, je préfère le monde sans Internet. Parce que ce qui est censé être un réseau social qui est censé nous rapprocher, nous éloigne en réalité. Et on ne sait plus passer du temps de qualité ensemble. Il n'y a qu'à voir. On ne sait plus apprécier un silence dans une discussion. Souvent, tu te retrouves avec des jeunes. Il suffit qu'il y ait 3 minutes de silence. Tout le monde fait semblant de sortir son téléphone comme s'il recevait un SMS, alors que pas du tout.
Parce qu'il y a plus de conversation. Toujours... Oui, on en parlait exactement. Cette semaine. Il y a plus de conversation. On a moins de mots de vocabulaire. Oui. Donc, on converse moins comme avant.
Savoir passer du temps de qualité ensemble. Je pense que ça, c'est en train de se perdre. Donc, on préfère tout recevoir à la maison. Et même quand on parle des relations intimes, les relations platoniques numériques aussi se développent. T'as beaucoup de personnes qui préfèrent avoir, entre guillemets, des relations sexuelles à distance aussi.
Alors là, via les réseaux sociaux. Parce que tu as en plus les algorithmes qui t'installent dans un certain confort. Mmh. Où tu n'es pas dérangé, tu comprends, tu n'es pas.
Oui, mais peut-être aussi qu'il y a une responsabilité
perturbée
de la façon dont on décrit le monde. On a l'impression qu'à l'extérieur, il y a que du danger, que de l'insécurité, que les jeunes filles vont se faire violer, que les garçons vont tomber dans des guerres. guet-apens, que enfin il y a aussi ce, donc finalement le seul endroit où t'es en sécurité c'est chez toi sous ta couette. Il y a peut-être aussi une façon dont nous on raconte le monde, et j'implique les médias etc. parce qu'effectivement moi je suis une génération où on était toujours dehors, mm-hmm. même gamin, c'est-à-dire que ta mère te disait va jouer dehors avec tes copains, tu te fatigues, reste pas dans mes pattes, c'est va jouer dehors. L'inverse aujourd'hui c'est l'inverse, c'est-à-dire que les parents vont dire non reste vite. Là surtout reste rentre vite et reste dans ta chambre.
On voulait aller découvrir le monde mais maintenant on veut que le monde vienne chez nous sans que l'on ait à bouger.
Fatima.
Enfin, je suis à la mode, puisque moi, quand j'étais jeune, j'étais casanière.
Miss Blend 98.
Miss Blend 98.
C'est son compte Tinder aussi, voilà.
Non, alors, les rencontres à distance, moi, je trouve vivement que ça soit ringard et vivement que les gens se rencontrent en vrai. Et je pense que ça va être vite ringardisé à cause des faux. C'est maintenant avec l'IA, il y aura tellement de faux profils où t'as l'impression de parler à une femme et derrière c'est un homme de 90 ans qui a créé le truc.
Donc je pense que et qui te demande de l'argent.
Vivement que ça soit ringard. Non, mais pour revenir sur le côté casanier, dans les causes effectivement, il y a l'argent, t'en as parlé rapidement, mais ça coûte très cher de sortir, de prendre un verre et tout ça. Donc il y en a beaucoup qui se replient, c'est pas par choix, mais parce que le portefeuille ne suit pas. Deux, moi j'ai beaucoup la santé mentale, c'est important aussi. J'ai beaucoup d'élèves. Maintenant, mais pas les miens, pas les collégiens, mais quand je leur parle, qui sont devenus étudiants, par exemple, qui me parlent de l'énergie de leur batterie sociale. Ça veut dire ils sont épuisés d'avoir des interactions sociales et des fois, ils développent même une forme de phobie sociale où ça leur prend une énergie folle parce qu'effectivement, les codes du net sont pas les mêmes codes que de reparler à quelqu'un. Et ça leur prend beaucoup d'énergie, donc ils préfèrent et se replier chez eux, et puis d'avoir leurs amis, les vrais amis avec qui on peut être soi-même et tout ça. Mmh. Après, je me réjouis pour le tricot, par exemple. Moi, je trouve ça très bien que ça revienne à la mode. Pourquoi ? Parce que j'ai le souvenir, et c'est des infirmières qui m'avaient montré ça, quand j'avais repris mes études de psy, elles proposaient de faire du tricot à certains patients. Et le fait d'être concentré, d'être vraiment sur l'instant présent et d'être sur du manuel... Il y a beaucoup de patients qui étaient angoissés, par exemple, et qui allaient mieux. Donc, en vrai, tout est lié.
Les jeunes vont beaucoup mieux, là. Ils s'imaginent le soir avec tricot.
Non, mais il y a l'angoisse. Il y a quelque chose aussi qui dit l'angoisse de cette génération-là. On a une génération qui peut être aussi angoissée. Il y en a qui ont choisi, qui sont très bien, parce que moi aussi, j'aime être chez moi. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Mais il ne faut pas négliger l'aspect santé mentale. Donc, à surveiller, à regarder tranquillement. Est-ce qu'il y a des gens, j'aimerais bien savoir, on a des gens qui témoignent sur leurs enfants, j'aimerais bien voir.
Il y a un auditeur qui arrive, moi je pense que c'est surtout aujourd'hui le problème du confort de l'algorithme, c'est-à-dire que quand tu sors et que tu rejoins des gens, tu sais pas sur qui tu tombes, tandis qu'aujourd'hui finalement les algorithmes de tes réseaux sociaux te confortent, t'es toujours avec des gens qui pensent la même chose
que
toi, avec des hommes, des femmes ou des filles, des garçons, qui sont exactement comme toi, donc ça t'installe. Tu vois, mais dans une espèce de coton, de quiétude mentale où tu n'as plus envie de prendre de risques.
Exactement.
Parce que souviens-toi, on est souvent les uns les autres à notre époque. Tu sors, tu vas dans une soirée. Tu dis, putain, qui c'est ce con? Pourquoi je suis avec lui? Et tu peux t'emmerder en soirée. Mm-hmm. Et tu dis, bon, je pars, je sors. Ah, finalement, c'était une soirée ratée. Ça nous est tous arrivé. Mm-hmm. Et tu ne veux même plus prendre ce risque finalement aujourd'hui. Mm-hmm. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à ça, t'es tranquille, t'es dans ton univers, t'es dans ton environnement et t'es pas perturbé. Quoi.
Parce qu'on cherche de moins en moins la communication, ce qu'on cherche, c'est la communion. C'est-à-dire que même quand quand tu es dans ton groupe et que tu envoies une vidéo qui t'a fait rire, tu lui envoies pour faire haha, c'est trop drôle et on rit ensemble d'un truc. On n'est pas en train de confronter des avis. Et donc, il y a de plus en plus de gens, mais même les adultes, c'est pas que les jeunes, qui ont du mal à respecter l'autre quand il n'est pas du même avis. Ça veut dire que, et c'est ce que j'apprécie nous dans nos auditeurs, moi il y a des auditeurs qui sont pas du tout d'accord avec moi, mais ils sont polis, ils arrivent à être dans l'interaction, on communique, on n'est pas d'accord mais on communique, ça c'est génial, mais on a de moins en moins ça, les gens si t'es pas du même accord avis que moi,
t'es contre moi
parce qu'on veut la communion.
Pardon, le Parisien aujourd'hui en France, il cite une jeune fille qui dit qu'elle préfère passer des soirées plaides, lecture, décorer ses albums photos. Ce qui ne veut pas dire, dit-elle, que je ne sors pas, mais plutôt une fois tous les 3 mois.
Oui,
seulement. L'évolution de son mode de vie rejoint d'ailleurs une tendance plus large parce que, par exemple, chez les jeunes, on consomme moins d'alcool, moins de cigarettes. Ça a été prouvé par factuellement qu'il y a effectivement une baisse de la consommation et de l'alcool et des cigarettes.
Aussi. C'est une génération.
Il y a aussi moins de
complexe.
Ils s'envoient moins en l'air.
Donc on est en train de d'avoir une nouvelle génération qui vivra différemment effectivement des générations précédentes. Alors vous parlez tout de suite de santé mentale. Vous avez, je trouve que vous avez un regard un peu péjoratif sur ça.
Ça fait partie des causes.
Comme si les santé mentale. Mais quand on dit santé mentale, on a l'impression qu'on est face à une génération de psychopathes.
Sur le moins de sexe.
Non, mais je veux dire, c'est comme ça. Je pense que ces gens-là sont heureux. C'est-à-dire, ils seraient malheureux. Ils seraient malheureux à rester chez eux. J'ai l'impression que Evanel, qui citait dans Parisien aujourd'hui en France, elle n'est pas malheureuse.
Non, justement, ouais, mais vous aussi, quand vous dites moins de sexe, on dirait que c'est moins. Mais par exemple, il y a des jeunes gens là qui ont vu la génération d'avant se perdre dans les applis, dans la surconsommation de l'autre, où c'était une forme de rapport au sexe frénétique même, et qui se sont dit non mais attends, ils sont abîmés, ils sont seuls, ils sont malheureux, j'ai pas envie de ça. Et donc par exemple, un truc qui était ringard avant et qui est devenu super à la mode, c'est le couple même, le couple qui dure, c'est-à-dire être en couple depuis longtemps. Avant, quand tu voyais des gens qui étaient c'est à la mode dans le sens où les jeunes, quand ils voient des couples qui sont ensemble depuis 5 ans, ils disent waouh, c'est quoi votre secret, oh c'est trop beau, ils admirent ça.
Oui, parce qu'une génération qui a eu des parents divorcés aussi,
c'est ça. Et c'est la durée, le fait de faire durer les choses. Donc moi,
il y a un espoir pour tous les conservateurs comme moi, de retour aux vraies valeurs. C'est ça qui
en... Je sais pas si c'est les vraies valeurs, mais en tout cas une interrogation sur ce qui s'est passé avant.
Mais par exemple, il y a aussi une autre qui est citée dans le Parisien, qui dit elle fait du coloriage, de la peinture, de la pâtisserie chez elle.
On sent quand tu lis.
Non, au coloriage,
bah je ne juge pas, au contraire. Et on dit justement, c'est une réponse à la surstimulation constante de nos vies, parce qu'on nous envoie 50 notations sur le téléphone par jour. Bah peut-être que par réaction, on a besoin de trucs calmes,
un havre de paix.
C'est pour ça que je vous parle de batterie sociale. Et ils sont plus à l'écoute aussi d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'avant, par exemple, quelqu'un qui ne buvait pas allait peut-être se forcer et faire semblant pour être dans le groupe. Bah là, il y a des jeunes qui vont assumer, qui vont dire moi, je fais attention à ma santé, et ils vont oser être des individus. En fait, la société individualiste, c'est aussi celle qui va moins être dans le code.
Le crochet,
moi, ça, j'aime bien.
Le crochet est une activité à la mode.
On a Marie à la mode. Qui nous appelle du Nord. Marie, bonjour.
Anti-angoisse.
Oui, bonjour.
Bienvenue, Marie. Bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération, alors, dites-moi.
Je suis une mamie.
Comme je disais au standard, en fait, la nouvelle génération assume plus. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a 20 ans, j'étais casanière.
C'est
ça. Je ne le disais pas forcément. Mm.
C'était mal vu.
Ben c'est ça, on essayait.
C'est notre moment, Marie.
C'est-à-dire, voilà, c'était quoi être casanière à votre époque alors?
On restait à regarder la télé, ou on écoutait la radio, ou on faisait, enfin on lisait des livres, mais on le disait pas forcément. Mm-hmm.
Donc, et aujourd'hui, vous pouvez l'assumer.
C'est ça.
Et vous êtes toujours casanière à 40 ans?
Oui. J'aime bien chez moi.
Et c'est même, il y a des choses qui sont devenues un peu sexy, qui redeviennent sexy, comme lire, par exemple. Avant, lire, il y avait le côté de l'intello tout seul qui lit, à mon grand désespoir. Mais maintenant, sur TikTok, il y a des mouvements sur BookTok, où on parle des livres qu'on a lus. Il y a les clubs de lecture qui reviennent à la mode. Moi, franchement, je me réjouis de ça.
Et puis après, un petit bridge, et ça va être un week-end.
Sur vos étagères, vous avez des collections de canards, des collections de boules avec la neige, c'est ça?
J'ai vraiment une collection de boules à neige.
Ah
bah
voilà.
Marie, moi j'adore.
Vous avez raison.
Mais en fait, je disais aussi par rapport au succès de Netflix. Aujourd'hui, justement, le fondateur de Netflix ou Facebook étaient des anciens casaniers.
Mais exactement.
En fait, ils ont justement développé ce que eux avaient besoin. Et finalement, ça fonctionne. Et aujourd'hui, eux sont millionnaires.
Et Marie Zuckerberg, quand vous regardez sa vie,
je suis une pointe de regret chez vous, Marie.
Il restait chez lui.
Vous aviez une idée pour, et voilà, vous auriez dû la développer. Oui.
Tout à fait.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut l'assumer. C'est ce que vous dites.
Tout à fait.
Alors qu'il y a 20 ans,
Marie,
on en avait
du coup, parce que vous dites, vous étiez casanière, ça ne vous a pas empêché, j'imagine, de faire votre vie, quand même, de toutes les manières.
Non, mais j'ai un masque un peu plus où je dois être un peu dans l'acting. Montrer en fait que je suis un peu plus sociable, alors que en fait je suis une timide maladive, et c'est compliqué de justement
il y a votre timidité qui fait que ça vous
timide, un peu agoraphobe et tout ça quoi, en fait c'est ça.
Oui. Mais aujourd'hui justement avec tout ce qu'on a développé, on le vit beaucoup mieux qu'auparavant.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis fonctionnaire.
Ah ben là c'est bien, vous pouvez télétravailler en ce moment. C'est ce que l'État veut pour que.
Mais justement, c'est ça qui est compliqué en fait. Après, je suis casanière, je suis timide, Ouais. Mais c'est vrai que dans la fonction publique, le télétravail a permis à certaines personnes qui ont des difficultés sociales ou en équipe de pouvoir continuer à travailler. Mais... Le télétravail, moi, je me dis, c'est pas que je suis en train de regarder la télé. Je fais mon boulot, je me concentre.
Oui, bien sûr.
Je fais beaucoup plus que quand je suis avec mes collègues qui m'invitent à boire un café.
Mais... Bah pour les neurones.
Pour contact social.
Mais du coup, vous sortez dans la semaine, vous arrivez à sortir une ou deux fois par semaine ou...
Tu t'inquiètes,
bah, je
fais des after-work.
On dirait un diagnostic.
Ah, vous faites des after-work avec les collègues, ouais, quand même. Vous sortez, vous amusez, vous faites des week-ends quand même.
Voilà, c'est pas envie,
ça.
Enfin.
Oui, c'est
si,
ça.
Je bois des spritz avec les collègues en thérapie.
Ah, voilà. Marie, vous êtes heureuse, vous allez bien?
Oui, c'est ça.
Mais oui, mais voilà.
Oui, parce que. Oui, parce que c'est ça, c'est présenté toujours comme étant c'est une tare, quoi, comme quelque chose de...
Mais parce que les gens,
c'est un problème mental.
Marie, je vous remercie d'avoir fait d'avoir après, témoigné comme ça en toute franchise. Merci.
Merci Marie.
Et merci de suivre les GG, les grands.
Juste, le témoignage de Marie, il peut aussi parler non, c'est pas seulement aux timides, elle s'est présentée comme timide, maladive, mais toutes les personnes qui sont un peu neuro-atypiques, comme ça je vois là.
Neuro-atypique.
Bah, il va y avoir plusieurs formules.
À part Antoine Diers, il y a
on va mettre, c'est un mot valise pour mettre dedans tout, comment dire, on va avoir les HPI, les personnes à haut potentiel, ah oui, on va avoir, bon, il y a plusieurs choses.
HPI maintenant. Oui, on est tous neuro-atypiques.
En tout cas, toutes les personnes qui vont avoir ce type de difficultés là,
ce que vous, potentiel
là où on se rend pas compte, c'est que ce qui est une souffrance pour une personne, ça va être au contraire d'être avec des gens. Parce que ça te prend une énergie folle et tu dois t'en remettre.
T'as envie d'être en représentation.
Moi,
en fait,
par exemple, si 3 heures d'émission avec vous,
je finis. Voilà.
Je finis juste après 3 heures d'émission avec vous. J'ai besoin d'être seule un moment.
Ah pareil, oui.
Nous aussi. Et nous aussi.
Et les auditeurs aussi.
Merci à Marie qu'on embrasse.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
C'est une interview du ministre de l'Éducation nationale donnée au Figaro et il insiste sur la syntaxe et l'orthographe.
Oui, il l'avait dit d'ailleurs ici même dans les grandes gueules face au GG, il avait dit que la rentrée, cette rentrée, ça sera d'ailleurs sa seule rentrée puisque a priori il ne sera plus ministre dans quelques temps, sera sous le signe de l'exigence aussi bien pour le baccalauréat que pour le brevet et notamment sur le niveau d'orthographe. Alors c'est amusant quand même parce que ça fait quand même des années que certains disent le niveau baisse, et ça fait des années que les spécialistes d'éducation disent non pas du tout, ou les politiques disent c'est pas vrai, arrêtez de dénigrer l'enseignement, ça ne baisse pas, ça ne baisse. Là on a le ministre lui-même qui reconnaît qu'on manque d'exigence et qu'il va falloir en mettre un peu plus, notamment sur l'orthographe. Donc ça fait du bien déjà, parce que quand même, il y en a beaucoup qui se sont fait engueuler depuis des années pour avoir dit tout simplement qu'il y avait un problème de niveau scolaire. Et d'ailleurs, on le voyait quand on est parent, simplement en regardant la copie des enfants. Donc là, ça veut dire quoi, toi qui es prof, l'exigence, comment concrètement vous allez faire?
Enfin, moi, j'attends de voir ce que ça implique derrière l'annonce, parce que je dis enfin, merci. Ici même, je vous avais dit à quel point j'avais été choquée il y a quelques années lorsqu'on parlait du passé simple en formation. Hein, et donc moi, je demandais à mes élèves d'apprendre le passé simple à conjuguer. Et on avait dit non, mais il faut qu'ils aient la sensation du passé simple. Et même, on nous avait dit seulement la troisième personne, celle qu'ils utilisent le plus. Un rapport vraiment très utilitaire à la langue. Ça m'avait vraiment, comment dire? Ça retirait du sens à mon métier. Donc je suis contente là qu'on reparle d'exigence, mais ce que j'aimerais c'est qu'on ne réduise pas, c'est pas qu'une question d'orthographe. Le gros problème qu'on a, c'est une question de structure de la pensée. Parce que l'orthographe c'est pas la décoration, parce que très souvent on veut nous caricaturer ou même les gens ils disent "Ah, j'ai fait des fautes d'orthographe." Si c'est une petite erreur, un petit oubli, une petite coquille, c'est pas grave, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'enfants qui ont une pensée complètement déstructurées, de phrases qui commencent à la ligne 1, qui vont finir à la ligne 25, sans aucune ponctuation, ni virgule, ni point. Imaginez l'état de la pensée, et qu'on ne comprend pas. Donc c'est l'idée d'être... Donc enfin, on se dit, cette copie-là, on va dire, il y a un problème quand même. On va mettre un stop. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit cohérent.
Mais est-ce qu'il y avait des consignes jusqu'à présent d'être
bien sûr, normalement, pour le brevet, et pareil, j'étais venue ici pour vous dire pour le brevet, normalement, on devait pas retirer plus de, on va dire, allez, sur une rédaction, il y a plein de critères, donc on doit suivre les critères. Et l'orthographe, si c'est 3 points, Donc une copie qui est complètement, qui a énormément de fautes d'orthographe, ne devait pas être pénalisée plus que ça. Donc ce
donc
que j'attends,
c'est pas plus de 3 points en moins s'il y a des fautes d'orthographe.
Ça
va être
ça, ça dépend du barème. Mais si un barème d'une rédaction,
là on risque de
regarde.
Passer de 80% d'obtention au bac.
Voilà,
à 17%.
J'attends. Qu'est-ce qu'ils mettent derrière l'effet d'annonce ? Donc je vous le dirai ici parce que je vais corriger le brevet. Donc j'attends correction du brevet. J'attends de voir les consignes de correction. Alors, est-ce qu'ils vont vous dire ? Mais s'ils appliquent, je peux vous assurer que les statistiques vont baisser.
Mais tant mieux. Est-ce qu'il a raison le ministre?
Non, mais pour moi, c'est une fausse bonne idée. Tu me diras ce que tu en penses, Fatima, mais donc, faut attendre la troisième que l'élève ait accumulé des années de fautes d'orthographe pour dire on va le sanctionner.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Éducation nationale qui a fait deux mesures géniales. Faut que les élèves commencent à 9h au lieu de 8h et maintenant, faut sanctionner les fautes d'orthographe. Il ne travaille pas à l'idée peut-être d'une réforme du système scolaire tout entier, c'est-à-dire que une indépendance
temps, là,
des établissements.
Mois, il est plus là.
Bah oui, mais d'accord, mais il n'a pas de vision. Je pense même pas que c'est dans son esprit. C'est-à-dire que selon les territoires, tu as des établissements où, par exemple, les élèves, tu fais cours le matin, activités sportives et culturelles l'après-midi. Tu as d'autres établissements où tu restes sur le système actuel parce que peut-être ça fonctionne et tu remets le cérémonial républicain. Je suis désolé, tout est lié et surtout tu fais en sorte que l'élève puisse se dire « mon bahut, c'est le mien ». C'est ce qu'on disait quand on était petit. Aujourd'hui, l'élève, quand il va à l'école, c'est pour dire « mon quartier à l'extérieur, c'est le mien ».
Moi, ce que je veux pas, c'est pas « mon bahut, c'est le mien ». Moi, ce que je veux qu'ils se disent, c'est « cette langue, c'est la mienne ».
Oui, mais c'est
ça
lié.
Veut dire « habiter sa langue ». Non, mais vous ne vous rendez pas compte combien, même pour la violence, quand on a des mots pour se dire « il y a moins de violence », quand on a des mots pour se dire « il y a moins de violence à l'intérieur et à l'extérieur ». Donc vraiment, le côté
«
cette langue, c'est la mienne ».
Oui, mais il y a une réforme pédagogique.
On néglige la question de la langue, on réduit ça au côté de l'orthographe. Mais c'est vital.
Oui, mais il y a une réforme pédagogique plus globale que sanctionner.
Qui était bon en orthographe ou pas, Antoine?
Moi, j'ai longtemps eu du mal à avoir une orthographe correcte, mais je l'ai finalement obtenue à force de retrait de points, à force de sanctions. Et donc, ce que dit le ministre, c'est le retour de l'exigence. Mais en fait, c'est juste normal. Et je trouve quand même qu'on a du mal à comprendre la trajectoire de ce ministre, puisque il y a quelques semaines ou quelques mois, il nous disait que les classes de niveau c'était pas forcément bien. Donc je comprends pas. Soit on décide qu'il faut remettre de l'exigence dans l'éducation nationale, et donc on y va franchement, de manière très claire, sur l'orthographe, sur des classes de niveau, sur l'autorité de l'enseignant, soit il fait encore une énième déclaration pour meubler un peu et donner l'impression de faire quelque chose. Je pense que c'est plutôt ça.
Juste sur la cohérence, ce qui est un peu injuste, c'est que là on le dit aux enfants et aux parents pour l'examen, alors que normalement, si on veut de l'exigence, c'est de l'exigence aussi dès le début, dans la transmission.
Et dès l'école
primaire,
peut-être.
Parce que si on a dit aux enfants, ce qui compte, c'est aussi la pensée, bon allez, c'est pas très grave, tu perdras pas beaucoup de points, et que le jour de l'examen, ils sont ultra sanctionnés là-dessus, ils vont sentir un peu, les 2011, là, qui passent le brevet, ils vont sentir mal.
Samy veut intervenir. Bonjour Samy.
Oui, bonjour.
Bienvenue Samy. Qu'est-ce que vous pensez de cette exigence vis-à-vis de l'orthographe, Alain?
Ben, je pense que c'est primordial dans un sens où c'est que moi je me suis retrouvé à faire des dissertations où c'est que normalement je devais avoir 18/20 et que je me retrouvais en fait que non. Ben, je pense que Madame Fatima connaît un peu le problème, c'est que je faisais ma dissertation. Mais je l'envoyais directement comme ça, en fait. Je ne me relisais pas.
Ah oui.
Il n'y avait pas de brouillon.
Il faut toujours se relire.
Le passé composé, le verbe avoir, le verbe être, machin. Je ne faisais pas tout ça. Et là, je me suis retrouvé dans une situation où c'est que j'étais responsable. Donc, il fallait que quand même j'envoie un message correct à mon patron, je veux dire. Donc, je prenais mon téléphone. Et je regardais si je faisais les choses correctement, si...
Et ça va? Et du coup, ça va maintenant?
Ça va dans le sens où c'est que oui, je fais... je me prends en main.
Mais Samy, juste
mais
un
savez,
truc.
Il y a plein d'adultes...
Je suis content de vous parler à tous, hein, on s'est vu à Toulon. Toulon d'ailleurs.
Mais j'ai cru comprendre un peu à l'accent.
Pas sous-estimer cette histoire d'orthographe. Moi, je parle à beaucoup.
C'est très handicapant.
Voilà. Il y a beaucoup d'adultes.
Pour la progression professionnelle.
Exactement. Et il y a beaucoup d'adultes qui ont été humiliés aussi à cause de ça et qui sont des blessés de l'école à cause de ça. Parce qu'on a cru pendant longtemps, on leur a dit, ah, mais t'es un imbécile. Parce qu'il y a des, fautes d'orthographe, des erreurs orthographiques. Mais si vous n'êtes pas accompagné, si on vous a pas expliqué pour relire, si on n'a pas décortiqué.
Avant ça, il faut une réforme pédagogique parce que l'éducation nationale, pendant des années, elle a évalué l'intelligence des enfants à travers le prisme des matières scientifiques. Et on le voyait même quand on passait un bac scientifique à l'époque, on était un beau gosse. Quand on passait un bac économique et social, comme il restait des maths et de l'économie, ça allait. Et quand on passait un bac littéraire, c'était tous les crasseux, les clochards, les philosophes qui fument du shit. Je caricature, mais c'était vraiment ça. Donc, il faut remettre, revaloriser les matières littéraires aussi.
Merci Samy d'avoir été avec nous. Vous aurez conclu notre discussion.
RMC jusqu'à midi, le meilleur des grandes gueules.